Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le Premier ministre Samalou Kondé a déposé mercredi 15 septembre au bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget 2022, un projet de loi des finances estimé à 10 milliards de dollars américains. Il s'observe donc une augmentation d'environ 3 milliards de dollars entre l'année 2021 et 2022. Les priorités du budget 2022 sont la santé, l'éducation, les réformes, la sécurité, le recensement de la population et l'organisation des élections de 2023, a précisé le Premier ministre. Pour sa part, le président de la Chambre basse, Christophe Mboso, a salué le dépôt par le gouvernement du projet de la loi des finances pour l'exercice 2022, conformément au délai fixé par la Constitution. Que pensez-vous du projet du budget 2022 estimé à 10 milliards de dollars américains et quelles seraient les conditions préalables pour atteindre ces montants? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons dans ce débat Guy Mafuta, il est député national élu de Tchikapa, il est cadre de l'Union sacrée de la nation. Bonsoir maître Guy Mafuta.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati, bonsoir.
André Tamwe Katamwe, député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FSC en sigle. Bonsoir André Tamwe Katamwe. Voilà, il n'est pas encore là. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Bonsoir monsieur Fabrice Ngabo.
Bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à tous les co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent à l'instant.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire, le Premier ministre Samalou Kondé a déposé le 15 septembre dernier à l'Assemblée nationale le projet de budget 2022. C'est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossa-Kodian Poanga, qui l'a réceptionné. D'une hauteur de 20 000 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars américains, ce projet de budget présente un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021. Dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba, Jean-Michel Samalou Kondé parle des priorités que s'assigne son gouvernement à travers ses projets de budget. On l'écoute.
La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. C'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion bien sûr de son excellence, monsieur le président de la République.
Guy Mafuta, je rappelle que vous êtes député national élu de Tchikapa et vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation. C'est vrai que vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais l'émission est aussi pédagogique. Hein. Un budget d'environ 10 milliards de dollars américains. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait de passer d'un budget d'environ 6,6 milliards de dollars à un budget de 10,3 milliards de dollars américains? Où est-ce que le gouvernement compterait, n'est-ce pas, obtenir les 3 milliards de plus?
Merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Je crois que on l'a toujours dit au pays ici, hein, il y a toujours eu ce problème de coulage de recettes, ce problème des ressources qui n'ont jamais été captées, ce problème de corruption. Et depuis un temps, vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a placé la lutte contre la corruption comme étant son cheval de bataille. Nous saluons aussi le travail qu'a fait l'IGF, cette patrouille financière, qui permet aujourd'hui à l'État d'amasser de l'argent. Je crois que c'est fort de cette activité de patrouille financière, fort de cette lutte acharnée contre la corruption, que le gouvernement pense être à même d'amasser autant d'argent. J'aimerais quand même préciser en entrée de jeu que le gouvernement a, c'est vrai, déposé le projet de loi de budget 2022 au Parlement. C'est d'ailleurs à féliciter parce que les années antérieures, c'était toujours des retards. Et là, je crois qu'il faut quand même féliciter le Premier ministre Samalou Kondé et toute son équipe qui ont tenu à déposer dans les délais ce document important. Là, nous attendons à ce que le document nous soit disponibilisé pour que nous puissions l'analyser, avoir un débat de fond et être beaucoup plus précis. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu des généralités. La ligne a été donnée par lui-même, le premier ministre, de suivi d'éléments, et je crois que c'est une ligne qui rencontre les vrais besoins de la population au jour d'aujourd'hui.
Pour l'exercice en cours, initialement, les billets étaient celui d'environ 11 milliards de dollars américains, mais après, il a été revu à la baisse. On est descendu en dessous, n'est-ce pas, de 7 milliards. Est-ce qu'on ne risque pas de connaître la même situation avec ces projets que le gouvernement venait de déposer au Parlement, même si vous évoquez notamment cette lutte contre la corruption qui est le cheval de bataille de l'actuel régime et aussi l'action de l'IGF? Est-ce qu'on ne risque pas de connaître ce qu'on a connu avec le budget actuel?
Moi, je crois qu'on a revu à la baisse pour des raisons évidentes. Il y avait la COVID-19. Qui a frappé non seulement le Congo, mais le monde entier. Vous savez, je crois que depuis un temps, on commence quand même à s'accommoder à ce virus qui n'a pas encore disparu. Nous pensons que l'activité économique a quand même reprise. Il suffit de voir le nombre de vols. C'est vrai, ce n'est pas encore la fréquence d'entrée. L'activité économique, même à travers le monde, a quand même repris. Et on commence à s'accommoder à ce virus-là. Je crois que fort de ça, il n'y a plus de raisons objectives, valables, qui puissent justifier un retour, sinon une révision à la baisse d'environ 40 ou 50% de notre budget. Je crois que tout a été pris en compte par des responsables qui estiment que le budget ici proposé peut être à même d'être exécuté. Mais faut-il encore ajouter que à la dimension du grand pays comme le Congo, les potentialités que nous avons, un budget de 10 milliards ou de 20 milliards, c'est pas encore ça. Quand nous voyons des pays autour de nous qui dépassent cela, le fonds à fournir est encore là, mais je crois que c'est quand même un pas important quand nous passons de 6 à 10 milliards. C'est quand même quelque chose qu'il faut encourager. Il faut seulement maintenir le cap, continuer dans cette lancée-là. Essayer un peu de voir. Nous, en interne, quand il nous arrive d'inviter, dernièrement, on avait la ministre, la VPM de l'Environnement. Nous voyons beaucoup de ressources qui ne sont pas captées par la République, qui pouvaient l'être. Donc, autant de fonds qui doivent être fournis par le gouvernement et les différents ministères dans leur secteur pour capitaliser davantage les ressources pour le Congo. Nous pensons que nous en sommes capables, avec un peu plus de rigueur et de sérieux, ça peut être fait, on peut avoir demain un budget de 30 milliards, c'est possible pour ce grand Congo.
Voilà, vous dites que, vous rappelez, n'est-ce pas, que l'activité économique a repris en dépit de cette COVID, cette pandémie plutôt COVID-19, mais beaucoup d'experts s'inquiètent du fait que toutes les réformes qui ont été, n'est-ce pas, conseillées au gouvernement, les réformes qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à l'État congolais de pouvoir mobiliser davantage les recettes et de maximiser ses recettes, que ces réformes-là tardent à venir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de rêver de réaliser un budget de 10 milliards alors que les conditions à cet effet ne sont pas là? Comme on dit, les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets.
Moi, en tout cas, je demeure positif. Ce qui est vrai, c'est que, je l'ai dit en introduction, c'est la COVID, c'est la pandémie COVID qui a justifié cette révision du budget. Mais je crois que les choses commencent à se mettre en place. Ce qui est aussi vrai, c'est que le gouvernement a manqué à poser certains actes importants, comme on l'a vu ailleurs, soutenir l'économie en temps de COVID. Aujourd'hui, je vous parle, quand vous voyez des entités économiques qui ont ouvert au Congo, qui ont 30, 40 ans d'activité, qui ont fermé à la suite de la COVID, c'est quand même assez regrettable. Donc, quelque part, on n'a pas su soutenir l'économie, on n'a pas su injecter de l'argent auprès des opérateurs économiques qui étaient en difficulté sérieuse. Donc là, nous sommes quand même fautifs, faute de moyens, il faut le dire. Mais je pense qu'il y a lieu de rester positif avec l'élan qui est déclenché ici. Si nous continuons à maintenir cet élan-là, la lutte acharnée contre la corruption, et aussi rechercher toutes ces ressources qui n'ont jamais été captées ou mises en œuvre par le gouvernement, je pense qu'on peut arriver. C'est quand même un grand pays avec beaucoup d'opportunités. Il suffit de voir dans le secteur minier tout ce qui se fait. Quand vous voyez les chiffres, les milliards exportés en termes de matières premières par le Congo et ce qui est resté au trésor public, rien du tout. Quand vous voyez le code minier qui n'est pas très bien respecté avec tout ce qu'on voit à gauche et à droite. Donc il y a lieu, avec un peu de sérieux, de faire très bien les choses et maximiser les ressources. Il y a lieu même dans le domaine de l'environnement. Nous sommes quand même une réserve importante pour le monde entier. Mais là, nous ne gagnons presque rien parce qu'il y a des mécanismes qu'on n'a pas encore activés. C'est juste une volonté et je crois que ça peut aller. Je reste quand même positif. Ce n'est pas le chercher le buzz. Hein. Le buzz, le Premier ministre aurait déposé un budget de 20 milliards. Donc je pense que quand il a quitté de 6, 7 à 10, c'est quand même raisonnable et c'est faisable, même si ce n'est pas encore à la hauteur de ce grand Congo que nous voulons tous.
Voilà, lorsque le Premier ministre avait déposé les projets de ces budgets, il avait annoncé que parmi les priorités, il y a la santé et l'éducation. On sait comment ces secteurs ont toujours été traités dans ces pays. Hein. C'est des secteurs qui sont traités en parents pauvres. Et vous pensez que cette fois-ci, l'on est sérieux, que les sociales sera prise en compte? Est-ce qu'on ne va pas, n'est-ce pas, reprocher à ces budgets le fait que la grosse part va aux institutions politiques et les secteurs sociaux ne reçoivent que des miettes?
Mais d'ailleurs, le credo, sinon le slogan de l'actuel régime, c'est le peuple d'abord. Qui dit le peuple d'abord, c'est le social du Congolais. Et je pense que pour tout responsable averti, pour tout analyste politique et social de notre pays, le plus gros budget doit revenir au social. Qui dit social, je vois d'abord en premier poste l'éducation. L'éducation, vous savez, la moyenne africaine, c'est autour de 20% pour l'éducation. Mais on n'a jamais atteint ça. Il faut d'abord qu'on voit, comme on n'a pas encore le budget, on va voir qu'est-ce qui est réservé à l'éducation avec cette exigence constitutionnelle de la gratuité. Donc l'éducation devra avoir un morceau assez important, un pourcentage assez important dans cette proposition de budget 2022. Et également, à côté de l'éducation, il y a la santé. Je vous dis, moi je suis de Tchikapa, il y a des villages qui pour trouver une maternité, les femmes à terme doivent faire 10 km à pied. C'est inacceptable. Il y a des hôpitaux qui n'ont jamais reçu un seul intrant en termes de microscope et autres. Donc la santé est un poste de dépense très important qui en réalité touche au vrai social de la population. À côté de ça, il y a aussi les routes de desserte agricoles. Il faudrait bien qu'on les aménage. Mais il faut aussi intégrer cette pandémie Covid qui n'est pas encore passée. Voir comment soutenir les opérateurs économiques. Souvent, on néglige ça. Il faut à un moment donné que les opérateurs économiques soient soutenus par l'État. Et je pense que je n'ai pas encore lu le budget. Je crois que le Premier ministre doit avoir mis un peu un regard là-dessus. À côté de ça, il a lui-même dit c'est la sécurité. Qui dit sécurité, nous voyons les armes à l'est, nos frères qui tombent. Nous sommes dans un état de siège partiel. Je pense que la sécurité, pour mettre fin à la sécurité, il faut des moyens. Et c'est aussi un poste très important. Mais à côté de tout ça, moi, je vois aussi un aspect important, la sécurité civile. Vous savez, aujourd'hui, on a vécu ce qui s'est passé à Goma avec l'éruption volcanique. On a récemment suivi ce qui s'est passé à Tchikapa, dans le Kasaï, Maïndombe Kwilu, avec la pollution des eaux. On a eu affaire à un gouvernement faible vis-à-vis de la détresse dans laquelle se trouve une population. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de solution, ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut déjà imaginer même un fonds de sécurité civile pour voir en cas de désastre naturel qu'est-ce que le gouvernement fait. Tout ce qu'on a vécu là, moi franchement, j'ai été très déçu et je crois que j'ai eu une émission chez vous à l'Okapi où j'ai décrié cette mollesse, cette activité faible du gouvernement qui n'a pas su répondre aux vraies attentes de la population. Et là, je pense qu'on est là pour dire la vérité et non ménager. J'espère qu'avec ce budget ici, il y aura quand même une quantité importante réservée au ministère des Affaires humanitaires. Je ne sais pas comment on va formuler ça. Mais moi, j'ai toujours pensé à un fonds pour les catastrophes naturelles.
Merci, M. Guy Mafouta. Nous vous gardons encore dans cette émission. André Tambwe Katambwe, député national et cadre du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonsoir.
Bonsoir aussi à tous les auditeurs de la Radio Capi et à mon collègue Maître Guy Mafouta.
Oui, que pensez-vous du projet de budget 2022 estimé à 10 milliards de dollars, le projet qui a été déposé récemment au bureau de l'Assemblée nationale?
Bon, comme tout observateur attentif à l'évolution politique de ce pays depuis un certain nombre d'années maintenant, je continue à croire qu'il s'agit d'une belle intention de vouloir dire sur des mots et sur des papiers qu'on a augmenté l'ambition de sensibiliser nos recettes, mais j'ai continué à émettre des réserves sérieuses sur la faisabilité, parce que depuis un certain nombre d'années, nous n'avons que des budgets qui augmente chaque année, mais dont la capacité de mobilisation s'avère toujours déficitaire sur le plan pratique. Donc 10 milliards, c'est une ambition, c'est un projet, c'est une programmation pure et simple, mais l'étude de la population, c'est un grand défi, et ce gouvernement qui se propose, j'ai déjà entendu clamer sur les axes dits prioritaires, mais j'estime qu'ils sont seulement, non seulement déficitaires, insuffisants, mais également modiques, en termes de quotas répartis par axes dits prioritaires.
Depuis un certain moment, et cela est même des notoriétés publiques, on constate un certain succès enregistré par les régies financières qui sont en train, n'est-ce pas, d'atteindre leur assignation. Est-ce que vous ne pensez pas que ce succès enregistré par les régies financières expliquerait, n'est-ce pas, l'espoir sur lequel se fonde le gouvernement pour constituer ces budgets de 10 milliards de dollars américains?
Je vais peut-être vous étonner, le grand nombre de Congolais le savent. Les assignations fixées aux différentes régies financières ou centralisatrices de nos recettes ici, c'est vraiment du trompe-œil grossier. Et je peux les démontrer. À chaque fois qu'on assigne à une entreprise les objectifs de sensibilisation de recettes à une certaine hauteur, vous allez constater que l'augmentation du dollar va faire en sorte que l'entreprise atteigne ou dépasse légèrement l'assignation, et on croit que non, le budget a été enrichi ou est capable d'être enrichi avec cette capacité. Non, c'est lié tout simplement au fait que la plupart de recettes que nous faisons dans nos régies financières sont payées en monnaie étrangère, en devise étrangère, euro-dollar. Et généralement, le franc congolais est en déliquescence chaque jour. Ben, je prends l'exemple des GDA, une fixation d'objectifs, et que aujourd'hui le dollar est à 2050 francs, alors que la régie devrait sensibiliser l'équivalent peut-être de 500 000 dollars, vous allez trouver que l'OFIDA va mobiliser, je parle de la DGDA plutôt, va mobiliser moins de 500 000 dollars, mais en francs congolais, ça sera une augmentation exponentielle. Et les gens sont habitués à tromper les médias. Non, il y a une augmentation, il y a une augmentation. Non, c'est du trompe-œil. L'argent exprimé en francs congolais, nous sommes en train de tromper le peuple congolais. Parce que la mobilisation des recettes doit être ressentie dans l'augmentation des salaires des fonctionnaires, doit être ressentie dans la création d'emplois, doit être ressentie dans la prise en charge des risques professionnels de tous les agents et cadres de l'administration publique. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Combien de retraités sont payés en monnaie des singes? La plupart des éligibles à la retraite sont en train de chômer comme ça. Où va cet argent? Peut-être ailleurs. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que 90% du budget national est consommé dans les dépenses de fonctionnement institutionnel. Quand est-ce que le peuple va ressentir cette augmentation des capacités des régies financières? Nous sommes en train de tromper le peuple. Nous devons avoir aujourd'hui un gouvernement ou des gouvernants capable non seulement d'émettre des ambitions, mais de concrétiser et de transmettre la répartition équitable de nos richesses au sein de la population. Que chaque Congolais qui se trouve à Katako, qui se trouve à Kabeyakamwanga, qui se trouve à Kasongolunda, qu'il bénéficie de la même manière qu'un Kinois, qu'un Luchois, dans le métier d'enseignant par exemple, il y a une disparité salariale inadmissible. C'est là que nous allons ressentir, que nous allons admirer la capacité de nos régies financières lorsque l'argent qu'on nous déclame sur les chaînes de télévision et des radios, le peuple congolais vit et touche cet argent chaque jour dans son quotidien. Si ce n'est pas ça, nous sommes entrés dans la rhétorique et des politiques pour endormir les peuples et les peuples croupis dans la misère alors que les politiques, lui, roulent sur limousine.
Oui, mais il est dit, hein, vous l'avez suivi même, le chef de l'État, à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a vanté certains exploits, notamment le fait que le franc congolais est resté stable depuis un certain moment. Et vous avez suivi le député Guy Mafuta qui estime que si les efforts qui sont fournis actuellement sont maintenus, on peut espérer.
Non, je pense qu'il y a un temps entre le temps de préparation de l'intervention du chef de l'État et la réalité. Parfois, il y a des inadéquations qui tombent. Aujourd'hui, là, aucun Congolais ne peut vérifier que le dollar est resté stable. Chaque jour, je demande aux opérateurs économiques qui sont en train de gémir au quotidien. Ils voient que le dollar est en train de grimper. D'ailleurs, regardez l'assiette sociale, les prix des produits de première nécessité, ils augmentent au quotidien. Donc, quand est-ce qu'on a senti la stagnation du taux du franc congolais? C'est faux. Le chef de l'État, il prépare l'intervention, il est le représentant de la nation, il présente le Congo devant les non-congolais. Mais nous, Congolais, nous devons savoir dire ce que nous, nous vivons. Nous devons rappeler. Quand le chef de l'État vient, il va trouver, effectivement, peut-être que le temps qu'il a pris l'avion. Mais quand il va rentrer, il va trouver que non, l'enseignant est en train de pleurer. Beaucoup de chômeurs. Il y a des nouvelles unités à qui le gouvernement a promis la mécanisation et l'inscription sur les listes de paix. Depuis plus d'une année, ça n'existe pas, ça ne vient pas. Ils sont en train de pleurer.
Merci.
Combien d'agents sont dans les administrations territoriales impayés? Les
agents,
les chefs de secteur, ils sont impayés, les chefs coutumiers, impayés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le pays avance ou recule?
Merci. Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Que pensez-vous du projet de budget 2022 estimé à 10 milliards de dollars américains?
D'entrée de jeu, je tiens à saluer le dépôt du Premier ministre du projet de loi des finances dans le délai constitutionnel, qui est une bonne chose. Mais je constate quand même tout de même que, encore une fois, Monsieur le Premier ministre est revenu sur la même chose. Hein. Je constate qu'il n'y a pas eu évolution. Parce que, vous allez vous rappeler que lorsqu'il a déposé le programme du gouvernement sur base duquel il a été investi, il avait annoncé certaines actions. Et la première des actions, c'était la sécurité. Il y est encore revenu. L'éducation, il y est encore revenu. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation telle que il n'y a pas eu d'avancée. Et la loi des finances, dont le budget d'un pays, c'est cet instrument-là qui permet de concrétiser les ambitions d'un gouvernement. Alors, parlant de la sécurité, vous savez dans quelle situation nous nous trouvons dans la partie orientale du pays, avec l'état de siège, n'est-ce pas? Il y a certes des points forts et des points faibles, mais de façon globale, il n'y a pas eu d'avancée significative. Parce que je ne suis pas un expert en sécurité, mais il y a des sources suffisamment fournies qui nous renseignent que, par exemple, un pays n'était pas rapporté une guerre ou un État n'est pas être en mesure de sécuriser les territoires si, par exemple, son armée n'a pas un effectif au moins d'un pourcentage de sa population. Et si nous sommes aujourd'hui, par exemple, à 100 millions de Congolais, c'est qu'on devrait avoir au moins une armée qui est constituée de 2 millions d'éléments. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Nous avons des effectifs très faibles. Pour élever les effectifs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les moyens, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne l'éducation, pour mettre en place le processus ou matérialiser le processus de la gratuité, il faut quoi? Il faut suffisamment de moyens. Il y a des experts qui, à qui le gouvernement avait réuni, qui avaient évalué les besoins à plus de 2 milliards de dollars américains. Voyez-vous, donc il faut des moyens. Et donc, bref, comprenons que le problème, en fait, du Congo, c'est un problème financier. Alors, la plus grande question est celle de savoir pourquoi nous sommes en train de tourner à moins de 5 milliards de dollars américains. Il faut le dire ça, les 10 milliards, ce sont les prévisions, n'est-ce pas? Mais ce qui est plus important, ce sont les réalisations. Et les réalisations sont fonction de la capacité interne de mobilisation des ressources. Parce que l'essentiel des ressources d'un État vient d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire du système fiscal. Alors que vous savez que nous avons un système fiscal qui est poreux, voyez-vous? Alors, maintenant, je disais donc que le plus gros problème, c'est un problème financier. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas les moyens, on ne peut pas être à la hauteur des attentes de la population. Je vais un peu chuter par là.
Oui.
Nous avons oublié que nous devrions réserver une part considérable dans la réflexion au niveau de la gestion publique aux réformes fiscales. C'est pourquoi en 2018, nous avons atteint le budget de 5 milliards réalisés en recettes. Nous sommes descendus plus bas en 2019. En 2020, nous sommes encore descendus trop bas. Maintenant, aujourd'hui, avec des prévisions de 10 milliards, nous risquons absolument de connaître la même situation que l'exercice actuel. J'ai entendu poser la question à l'honorable Guy Makuta, qui est en ligne. Il s'est montré très optimiste. J'ai dit, c'est bien d'être optimiste, mais encore faut-il qu'on ait des éléments, des actions, n'est-ce pas, qui permettent d'être optimiste ou qui permettent l'espoir.
Justement, son optimisme se base sur ce qu'il a évoqué, hein, la lutte contre la corruption qui se fait actuellement, l'action de l'IGF. Et il y a aussi, n'est-ce pas, ces succès que les régies financières sont en train d'enregistrer actuellement avec l'atteinte des assignations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces facteurs, on peut faire des choses différemment et comparativement à ce qui a été toujours fait auparavant?
Non. Techniquement, ce ne sont pas ces éléments-là qui peuvent justifier, n'est-ce pas, l'espoir quant à la mobilisation des ressources à cette hauteur de 10 milliards. En fait,
quand nous parlons de l'IGF, parlons-en parce que vous avez soulevé cet aspect. En fait, l'IGF, le travail qu'elle fait, ce n'est pas ça qui peut permettre à un État ou à notre pays d'atteindre cette hauteur-là. Parce que vous serez d'accord avec moi que le travail que fait l'IGF est certes à saluer, mais est plus orienté dans une approche politique. Alors que, avec évidemment des postes de certaines personnalités emblématiques de la scène politique congolaise, mais l'IGF, le travail qu'elle devait plus abattre, devait être axé dans une approche plus technique et administrative. Voilà pourquoi je vous rappelle que tous les autres États qui ont mis la barre haut et qui y sont arrivés sont passés par les réformes. Et nous n'en serons pas au premier coup ou au premier fait. Je vous rappelle qu'en 2001, nous avons eu un budget d'environ 400 millions de dollars américains. Mais qu'est-ce que le régime qui est arrivé à faire pour quitter 400 millions de dollars américains à 5 milliards qu'on nous a laissé en 2018? Ce sont tout simplement les réformes fiscales qui ont été mises en œuvre, qui ont conduit notamment à la loi 004-2003 du 13 mars 2003 portant sur le revenu fiscal en RDC, jusque même à l'institution de la TVA et d'autres réformes qui ont continué. Ce sont là les éléments qui, techniquement, nous ont permis d'atteindre cette performance-là.
Parce que vous insistez là-dessus, et là, ça nous permet, n'est-ce pas, d'aborder notre deuxième question de cette émission. Et à votre avis, quelles seraient, selon vous, n'est-ce pas, les conditions préalables pour atteindre ce montant des 10 milliards de dollars américains? Vous avez insisté sur les réformes fiscales, mais à part ces réformes fiscales, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que l'on soit à mesure, n'est-ce pas, de réaliser ces montants des 10 milliards de dollars américains?
Les conditions sont des deux ordres. Quand nous parlons des réformes fiscales, c'est-à-dire nous parlons du système fiscal congolais, qui est celui qui génère des ressources pour l'État. Les solutions sont à exécuter au niveau interne, mais également au niveau externe. Au niveau interne, je parle du système fiscal, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'actions qui doivent être posées, qui consistent à rationaliser le système. C'est-à-dire, nous n'avons cessé de le rappeler, que l'État, au-delà du travail que fait l'IGF et d'autres organes, l'État devait instituer un mécanisme contraignant et répressif qui va permettre au système fiscal congolais, qui va lui ôter son caractère poreux. Nous sommes dans un environnement économique où c'est seulement les investisseurs privés étrangers qui peuvent se retrouver. Et l'État ne peut pas se retrouver dans ce contexte où, finalement, les régies financières qui ont la mission de collecter les ressources le font avec beaucoup de limites. Et là, je me dis, mais pourquoi l'IGF n'a jamais pris l'initiative de revisiter les répertoires des contribuables et assujettis des régies financières? Je vous dis, le jour où l'IGF prend cette initiative de revisiter les répertoires des régies financières, peut-être que nous allons assister à des procès plus scandaleux que ceux que nous avons déjà connus. Parce que la mobilisation part de là. Quelle est la capacité des régies financières à pouvoir identifier les contribuables? Et quels sont les contribuables qui sont identifiés aujourd'hui? Monsieur le journaliste, si on vous dit par exemple que pour une ville comme Kinshasa, nous avons moins de 4000 contribuables moyens et grandes entreprises, il faut ne pas être rationnel pour croire à cela. On vous dit sur l'ensemble du territoire national, nous avons environ 11 000 moyennes et grandes entreprises. Et le deuxième aspect de réforme fiscale, c'est au niveau international. Comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons être ce pays-là qui ne pense pas à exploiter les domaines des conventions fiscales internationales? Donc c'est un problème très sérieux. Nous avons pensé que le chef de l'État, pendant son mandat de 5 ans, il devait permettre au pays au moins d'être doté de 6 conventions fiscales internationales.
Merci, on a compris.
Nous en avions conçu et malheureusement, le projet étant adressé au président de la République, on n'y a pas prêté d'attention, mais je vous informe qu'il y a un pays voisin de la sous-région qui avait sauté sur l'occasion et le projet est en train de poser les prix.
Merci.
Donc, il faut qu'à un moment, on donne la considération à la réflexion des citoyens, des chercheurs congolais, on leur fait confiance pour que finalement la nation puisse en tirer profit.
Merci, on espère que le message passe, on espère que vous serez écouté. Honorable Guy Mafuta, nous allons passer au point de vue des auditeurs qui sont en train, n'est-ce pas, d'appeler pour contribuer à ces débats. Vous allez donc réagir à cette réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis Bukavu au sud Kivu.
Fikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Depuis un certain temps, le dépôt du budget à l'Assemblée nationale est devenu un non-événement, d'autant plus que rien ne change dans le vécu quotidien du peuple congolais. On peut avoir même un budget de 20 milliards, mais tant qu'il n'y aura pas la volonté politique de servir le peuple, la misère demeurera. Il est inadmissible que les gros du budget soient consommés par un poignet de gens. Pendant ce temps, la majorité se contente de miettes. En outre, je trouve que ce budget est irréalisable, d'autant plus que rien n'est fait pour accroître l'assiette fiscale congolaise. Pour moi, ce budget est pour une consommation populiste, mais dans les faits zéro. À mon avis, tant qu'il y aura inégalité dans les redistributions des ressources, cet exercice du dépôt de loi de finances restera un non-événement pour nous, peuple lambda.
Honorable Guy Mafuta.
Merci beaucoup. Je pense que le compatriote qui réagit ainsi n'a pas totalement tort. Je crois que même si, je le disais récemment là, même si vous suivez aujourd'hui le discours de Lumumba de 1960, les préoccupations qui étaient celles de l'ancien Premier ministre demeurent encore. Le Congo n'a pas beaucoup évolué. On a l'impression que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Maintenant, nous espérons que cette fois-ci, il faut quand même créer ce public-là. Casser cette routine pour avoir un budget qui rencontre effectivement les vraies aspirations de la population. J'ai suivi mon collègue André et le chercheur là. Je crois qu'il faut quand même qu'on soit précis sur certaines choses. Quand il parle des intentions, oui, le budget partout, c'est d'abord une vision. La vision, elle est là, elle reste à la concrétisation. Quand il dit le chef de l'État, son discours ne rencontre pas la réalité, il a mis du temps, la réalité. Non, non, c'est quelques 10 heures de vol. Et en 10 heures, rien n'a changé. Aujourd'hui, il peut tout dire, mais le dollar est quand même stable. Ce sont des chiffres qu'il faut donner. Les recettes sont en francs congolais, le dollar est quand même stable. Là où je suis d'accord avec le chercheur, c'est que il faut effectivement des réformes fiscales. Il suffit de poser la question aux Congolais. Qui paye l'impôt foncier? Personne ne le paye. Non seulement personne ne paye, personne ne vient collecter cet impôt-là. Là, il y a un problème. C'est pourquoi il faut mettre beaucoup de moyens dans la réforme fiscale et aussi dans la sensibilisation. J'ai même dit un jour que la sensibilisation ou les réformes fiscales, l'application, devient aisée quand le contribuable arrête de poser la question de savoir où va son argent. Il faudrait que le gouvernement, les services publics soient plus efficaces. Mais dans tout ça, il faut situer deux choses. La première, c'est qu'il faut maximiser les ressources, les recettes. Et la deuxième, c'est la qualité ou la pertinence de la recette. On peut avoir beaucoup d'argent, mais quand on ne sait pas où affecter cet argent-là, le peuple risque de demeurer dans l'expectative, ne pas ressentir le progrès au niveau des ressources. Le travail qu'avant aujourd'hui l'IGF n'est pas politique, c'est un travail technique. Et je pense que ça porte de fruits.
Guy Mafuta,
oui.
Toujours en parlant de l'honorable André Tamboué, il a relevé le fait que 90% de ce budget est souvent consommé, depuis toujours d'ailleurs, consommé par des institutions politiques. Et vous avez suivi, vous venez sur notre auditeur qui vient de nous appeler de Bukavu, qui parle de cette répartition, n'est-ce pas, inéquitable du budget. Donc ça revient, c'est vraiment une préoccupation de la population. Et vous êtes autorité budgétaire. Lorsque vous recevez un tel projet comme celui qui a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale récemment, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de le corriger, mais vous ne le corrigez pas dans le sens de permettre à ce que la répartition soit équitable. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas vous accuser, vous, parlementaire, d'être complice du gouvernement, et pour que vous continuez, n'est-ce pas, vous partager la part du lion de ces budgets au détriment de la majorité de la population congolaise?
Mais je crois que quand le collègue dit que 90% du budget est consommé par les institutions, je crois pas qu'il ait raison. Le gros de ce budget, c'est effectivement les salaires. C'est pas les institutions qui consomment 90% de ce budget. Là, c'est quand même quelque chose qu'il faut rectifier. C'est vrai, on est autorité budgétaire. Moi, généralement, c'est un attribut qui me met un peu mal à l'aise. Parce que quand vous examinez, vous pouvez me remonter à 20 ans. Le budget qui provient du gouvernement et celui qui sort du Parlement, c'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que le gouvernement vous dit, moi je suis capable de mobiliser autant. Vous ne savez pas le pousser d'aller plus loin. C'est même dans le procédé de la conception du budget qu'il y a un problème. Comment on arrive à former le budget, à composer ce budget-là? C'est ça tout le problème.
Merci. On va donner la parole aussi à l'honorable André Tamboué. Vous allez réagir à cette réflexion de notre auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Signor Bompong, on va partir de la ville de Lubumbashi.
le projet de loi des finances pour l'année 2022 doit être un budget de sortie de crise où un gouvernement responsable doit penser comment relancer les activités économiques et aux besoins investir pour préparer les 10 prochaines années. Malheureusement, nous sommes dans les fantasmes des maquillages de chiffres comme d'habitude, alors que la résilience post-Covid nous exige une certaine orthodoxie budgétaire. Ainsi, pour maintenir le cap de ce projet de loi de finances, la mobilisation des recettes et la réduction du train de vie des institutions restent des préalables à prendre en compte.
Honorable André Tambo-Katamboué, votre réaction?
Oui, je pense que notre auditeur a suffisamment raison lorsqu'il pense qu'il faut une orthodoxie dans la dépense publique et puis une réduction de trait des îles des institutions pour que le peuple arrive ne fût-ce qu'à sentir l'odeur de ces chiffres qu'il appelle maquillés. Je suis de cet avis et je continue à insister sur le fait que déjà ce n'est pas un premier budget proposé ou qu'il y a eu pour ambition d'atteindre les chiffres de 10 milliards de dollars dans ce pays. Ce n'est pas le premier. Il y a déjà eu des gouvernements dans ces pays, il n'y a pas 5 ans, qui ont proposé un budget, qui ont eu l'ambition de proposer un budget de 10 milliards de dollars. Mais nous ne l'avons jamais atteint.
André Tambo-Katamboué, l'auditeur qui vient de nous appeler de Lubumbashi a relevé deux éléments importants, hein, l'orthodoxie budgétaire, mais aussi la réduction, n'est-ce pas, du train de vie des institutions. Hein. Vous faites partie, n'est-ce pas, de ces institutions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez vous-même, autorité budgétaire, disposée, n'est-ce pas, à corriger ces budgets de manière à réduire les trains de vie des institutions, vous-même faisant partie de ces institutions-là? Est-ce que vous êtes disposé à le faire?
En tant que député de l'opposition, je suis mieux placé pour vous dire les sacrifices que consentent au quotidien pendant dans ce contexte les députés nationaux, déjà en tant qu'institution, au sein de l'institution parlement. L'Assemblée nationale à laquelle moi j'appartiens a déjà consenti d'énormes sacrifices pour l'état de siège et pour les circonstances graves qu'a connu notre peuple à l'Est avec l'éruption du volcan. Donc je vois la volonté qu'a les députés à partager les peu qu'ils gagnent dans ce contexte difficile. Où c'est le député qui doit répondre à tous les besoins sociaux de sa base. Donc les députés nationaux, l'Assemblée nationale qui est la chambre parlementaire à laquelle j'appartiens, j'ai déjà vu perdre au moins cette volonté de travailler de commun accord avec le gouvernement pour que les peu qui est attribué, alloué à notre institution soit réparti au niveau des services sociaux.
Merci.
Mais là, ça ne se situe pas le problème, messieurs les journalistes. Le vrai problème, c'est au niveau du gouvernement qui est en réalité celui qui nous met devant des contraintes lorsqu'il nous amène le test à légitimer. C'est les contraintes parce qu'il nous dit « moi je ne peux que faire ça ».
Voilà.
Et nous, n'étant que les auteurs, les rédacteurs des écritures, nous ne pouvons rien peut-être en termes de pouvoir technique.
Merci.
Mais là où le jeu se joue, c'est au niveau de ce que vous avez appelé les civismes fiscales. Comment on peut arracher aujourd'hui aux Congolais des unités? Dans mon village à Djonga, on arrache à une maman des unités, on ne lui rétribue rien et on attend sensibiliser cette maman à payer l'impôt. Avant de payer l'impôt, de demander chaque jour dans la vie que nous achetons, dans l'eau que nous achetons, dans les unités, il y a l'impôt qui est incorporé. Donc le civisme fiscal.
Merci honorable, je comprends que vous voulez, n'est-ce pas, dénoncer la taxe RAM. Fabrice Ngabo, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Jean-Baptiste Lénigna, moi, depuis la ville de Kisangani. La déposition des projets de budget faits en temps par les gouvernements en place est salutaire. Cela permettra de pouvoir examiner les possibilités de sa mise en pratique. En revanche, les budgets ont été toujours élaborés en République démocratique du Congo, mais les réalisations peinent souvent à se concrétiser. Si nous nous rappelons des budgets précédents qui devraient traiter plusieurs cas, notamment celui de la rémunération de travailleurs publics, nous trouverons curieusement qu'aucune action n'est menée sur terrain. Les travailleurs sont impayés, sont en train de souffrir, les routes qui sont en forte dégradation, notamment les RN4 Kisangani, Bounia, Kisangani, Beni ou encore Isiro, ne sont même pas réhabilitées.
Fabrice Ngabo, votre réaction?
Je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur. Parce que tout simplement, effectivement, je l'ai aussi dit, le problème ce n'est pas les 10 milliards qui constituent les prévisions. Le problème c'est plutôt l'exécution. Et l'exécution ici, c'est dans l'approche des recettes, voyez-vous. Et donc, aussi longtemps il n'y a pas il n'y a pas de réforme dans les réflexions des mobilisations des recettes publiques en RDC, où nous devons rêver, nous serons toujours en train de rêver, donc c'est à l'heure, et je constate que cela ne constitue aucunement une préoccupation, et dans les chefs du Premier ministre, donc du gouvernement, et dans les chefs des parlementaires également.
Fabrice,
et cela malheureusement contraste avec la détermination et la volonté du chef de l'État, qui sont manifestes à pouvoir construire un État fort, un État où la justice fonctionne convenablement et un État où la population est sécurisée.
Fabrice Nabo, nous sommes à la fin
avec la vision du chef de l'État.
Voilà, on a compris, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut commencer à conclure? Et qu'est-ce que vous recommanderez au gouvernement pour que les choses s'effacent mieux, pour qu'on puisse avoir non seulement un budget aux ambitions, n'est-ce pas, de la RDC, mais aussi un budget qu'on peut être capable de mobiliser, de réaliser, et qui peut rencontrer les préoccupations de toute la population?
Ma conclusion, c'est la seule recommandation, et qui s'adresse essentiellement à l'environnement immédiat de l'institution président de la République. Je pense que les collaborateurs du président de la République doivent faire preuve de volonté pour pouvoir l'accompagner effectivement. Moi, je suis très peiné de constater que, hier, une initiative, des propositions concrètes sur les réformes fiscales de notre pays qui devaient permettre au gouvernement de mobiliser plus de recettes qui feront en sorte que le gouvernement soit à la hauteur des attentes de la population, que les collaborateurs aient fait en sorte que cela n'accède pas à l'institution destinataire et qu'aujourd'hui les pays voisins s'en servent. Et
merci.
Donc ça, ce n'est pas à patriotique.
Merci Fabrice Ngabo.
Je déplore cela et je demande tout simplement à tous ceux qui ont une parcelle quelconque de pouvoir de faire preuve de conscience. Il n'y a que la conscience qui peut guider les actions pour que finalement le peuple aussi en tire profit.
Merci Fabrice Ngabo. Guy Mafouta, votre conclusion?
Merci beaucoup. Je crois que c'est quand même le gouvernement Sama, c'est quand même son premier budget. Et je crois qu'il faut quand même leur accorder le bénéfice du crédit. Il nous faut effectivement un déclic en termes de mobilisation des recettes et aussi dans la redistribution des avantages de l'État à travers toute la République, quoi. C'est quand même important et je pense que le travail qu'a l'IGF, la lutte acharnée contre la corruption, les contrôles doivent aider à cela. Je reste quand même positif, optimiste à cela. Et je pense que avec un travail acharné, un travail sérieux, ça peut aller. Donc, donnons quand même au gouvernement Sama le bénéfice
du crédit. Merci. André Tamboué Katamboué, votre conclusion?
Oui, le gouvernement n'ayant mis en place aucun mécanisme, aucune réforme fiscale déjà effective ou opérationnelle, j'ai mis des réserves par rapport à la faisabilité de cette extension que la proposition du budget déposée à l'Assemblée nationale. Mais je reste quand même très motivé à dire que nous allons nous battre pour veiller en sorte que le gouvernement, avec les peu d'ambition qu'il s'est donné cette fois-ci, puisse déjà commencer dans l'exécution de ce budget à résoudre les problèmes sociaux cruciaux de notre population, notamment la prise en charge des fonctionnaires de l'État, la mécanisation des enseignants et la création d'emplois dans ce pays qui est devenu l'industrie des diplômes sans emploi. Donc c'est un problème majeur qu'il faut résoudre.
Merci.
En résolvant également la donne sécurité qui est très très importante pour permettre à ce que notre économie puisse aller de l'avant.
Merci.
Mais refuser aussi des accords compromettants de l'avenir de notre pays et permettre à ce que notre pays puisse garder sa souveraineté et répondre réellement aux besoins aux intentions, aux idéaux qui nous ont légués nos pères de l'indépendance.
Merci à Guy Mafouta, André Tamboué Katamboué et Fabrice Ngabo d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était la technique, à Kelly Nkoute, Dona Madimba et Michel Outeté qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Marcel Seboujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.